Amoureux des livres, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Fauveau. Vincent que je viens de rencontrer samedi dernier au Domaine Saint-Vincent, non, Domaine Saint-Clément, à la journée du Beau Livre. Et en première table, j'ai vu votre magnifique livre, Fécondité, et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez aujourd'hui. Peut-être déjà vous présenter, Vincent.
Oui, bonjour. Alors, je suis médecin de santé publique internationale. C'est un terme un petit peu compliqué et pompeux, mais je ne suis pas praticien. Mais au départ, j'étais pédiatre et finalement, je me suis intéressé beaucoup plus à la mère et au nouveau-né. Ça a été ma spécialité pendant toute ma vie professionnelle, donc pendant 40 ans de vie professionnelle. Je me suis focalisé sur les complications et la prise en charge des complications de la grossesse, de l'infertilité, et de l'accouchement, de la naissance et puis des tout jeunes enfants. Donc ça m'a permis de, sur le plan de la santé publique, c'est-à-dire pas en praticien mais en organisation des soins et visite des hôpitaux du monde entier, j'ai visité donc des maternités, des hôpitaux, des écoles de sages-femmes, des
médecins. Dans quel pays par exemple ?
Dans beaucoup de pays du monde, ben, au Bangladesh, au Cambodge, au Laos, pour l'Asie, en Inde beaucoup, et puis beaucoup en Afrique. Alors dans la plupart des pays d'Afrique, je me suis déplacé pour aller donner des conseils pour l'amélioration des conditions de prise en charge, parce que comme on le sait, très peu. Il y avait encore, il y a quelques années, un demi-million de femmes qui mouraient des complications de la grossesse et de l'accouchement à travers le monde. Très peu en Europe, bien entendu, au Japon, aux États-Unis, mais dans le monde entier, ça faisait un chiffre absolument impressionnant et inadmissible. On n'a pas le droit de perdre la vie en donnant la vie comme ça. Et donc, ça, avec un groupe d'experts internationaux, on a fait des grandes campagnes pour lutter contre la mortalité maternelle. Et nous avons relativement bien réussi. On a baissé ce chiffre de moitié. Donc aujourd'hui, c'est encore un quart de million de femmes qui meurent, mais ça progresse, mais il y a encore énormément de travail à faire. Alors, tout ça pour dire que pendant que j'ai visité ces innombrables hôpitaux, villages, marchés, etc., je me suis intéressé aux objets que les femmes, les familles utilisent, se procurent pour intercéder auprès des esprits, des dieux, des ancêtres, des gens de leur culture donc religieuse hein, essentiellement, pour diminuer les angoisses qu'elles ont vis-à-vis de leur vie reproductive justement. De leur, alors j'en ai conçu la théorie, ce que j'appelle des trois angoisses existentielles, c'est-à-dire une femme, pratiquement toutes les femmes au monde. Depuis toujours, ont été inquiètes si elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc en cas de stérilité, parce que ça posait un énorme problème social, familial, pour elles-mêmes et pour leur famille. Ont été inquiètes et angoissées une fois qu'elles avaient un enfant, qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles se demandaient si cet enfant allait être normal, s'il allait être joli, s'il était complet, etc. Et puis, la plus grande angoisse, c'est comment vais-je mettre au monde cet enfant alors que mes cousines, mes sœurs, mes filles ont peut-être sont déjà décédées ou ont eu des grosses complications. Chacun sait les risques dans les villages, dans les traditions, les risques de l'accouchement. Donc elles se faisaient beaucoup de soucis à ce sujet. Et donc ça les a amenées à se procurer des objets, des amulettes, des talismans, des charmes, des fétiches, etc. pour pouvoir dialoguer avec les esprits, ceux qui savent, peut-être qu'ils savent ce qui va se passer, et en tout cas ils pourraient nous protéger. Et dans toutes les cultures du monde, il y a des esprits, il y a des dieux, on peut les appeler le dieu ou les dieux, des déesses, des personnes comme ça, des entités, je veux dire, ou des ancêtres qui peuvent intercéder, et c'est toujours bon d'utiliser des moyens de communication avec eux, et ce sont ces objets que j'ai collectionnés à travers le monde. Donc j'ai accumulé au cours des derniers 30 ans une collection assez impressionnante d'une à peu près 300-400 objets, images relatives à la fécondité. C'est l'objet de ce livre.
Les premiers objets, ils sont venus vers vous naturellement ou vous avez été les chercher? Parce que généralement, quand on commence, c'est plus qu'une collection, là, c'est une mémoire d'objets. Y a un objet fondateur, le premier objet qui vous a interpellé, qui s'est présenté à vous et qui vous a donné envie de continuer après.
Oui, je pense que les premiers objets, d'ailleurs pour beaucoup de voyageurs du monde, c'est le même, ce sont les poupées de fécondité. Alors on appelle ça des poupées de fécondité chez nous, mais là-bas c'est très sérieux. Dès l'entrée dans la puberté, on offre aux filles une petite poupée.
Qui est là-bas en Afrique, excusez-moi, parce qu'on a vu là-bas. Oui.
En Afrique en particulier, mais pas que, en Asie beaucoup, dans toute l'Océanie, il y a des poupées de fécondité, mais enfin en Afrique, elles sont particulièrement belles et variées, diverses et symboliques, avec des formes tout à fait typiques. Donc on offre ces poupées aux jeunes filles en espérant qu'elles vont tenir, qu'elles vont s'occuper de cette poupée nuit et jour, qu'elles vont la garder sur elles et que ça va les stimuler assez rapidement, donc après la puberté, leur maternité, leur désir de maternité et leur capacité à s'occuper d'un enfant. Et donc c'est l'idée. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas tellement protecteur, c'est plutôt stimulateur, stimulant de la fécondité. Et puis après, on offre aussi aux femmes d'autres types d'objets, par exemple les masques ventraux, hein, des masques de grandeur nature qu'on met, qui représentent un ventre de femme enceinte avec la poitrine, qu'on met autour du ventre des femmes au moment où on souhaite qu'elles soient enceintes, et on les fait danser avec ces masques. Quelquefois, on fait aussi danser le mari autour, affublé de ce masque, pour qu'il fasse bien son travail de mari. Et puis après, il y a aussi des objets qui sont vraiment propitoires, c'est-à-dire qui permettent de lever un petit peu les angoisses des femmes. Ce sont aussi des fétiches, et ils sont confectionnés, ces fétiches, par les chamans, les sorciers, les forgerons, les artistes, enfin, ou les artisans plutôt des villages, et qui sont offerts aux femmes. Et très souvent, ces objets ont une charge magique, mais perdent leur charge magique une fois qu'ils ont rempli leur objet, c'est-à-dire
après l'accouchement,
on les jette, voilà, après l'accouchement, si tout s'est bien passé.
C'est des objets petits, parce que des amulettes, c'est des objets que les femmes ont toujours sur elles, ou qu'elles peuvent poser à côté de leur lit, il y a une place.
Voilà, alors il y a différentes catégories. Bon, les amulettes ou les petites statuettes préhistoriques, hein, paléolithiques, qu'on a trouvées dans les grottes, dans les foyers, dans les grottes des hommes préhistoriques, historiques, elles sont de taille toute petite, c'est quelques centimètres, et c'est d'autant plus difficile de les retrouver, mais on en a retrouvé à peu près 300-400 dans le monde, très peu en Afrique, essentiellement en Europe, dans les grottes, et d'autres sont beaucoup plus grandes. Par exemple, chez les Baga en Guinée, on balade à l'occasion de cérémonies des masques d'épaule qui sont très très grands et qui sont qu'une personne peut à peine porter. Donc il y a toutes les différentes tailles possible de ces objets et différents usages. Et chez les au Ghana, chez les Ashanti, vous savez, ce sont ces statuettes avec une tête plate et ronde. Mm-hmm. Et pourquoi la tête est-elle plate? Pour qu'elle puisse être glissée dans la ceinture du pagne de la jeune femme, pour pas qu'elle la gêne, quoi, et puis qu'elle puisse faire ses activités quotidiennes, aller à l'école, ou bien aller au marché, ou bien travailler au champ, avec cette statuette glissée dans le pagne de son vêtement. Donc ça dépend, il y a différents types d'objets. Puis il y en a d'autres qu'on dépose au temple, ou qu'on dépose à l'église. Alors les ex-voto, par exemple, on dépose un objet à l'église.
Ça, c'est plutôt dans les civilisations chrétiennes qu'on a des ex-voto,
oui,
des choses comme ça.
Oui, là où il y a des églises, effectivement. Ouais, ouais. Donc là, mais dans les temples, dans la plupart des temples du monde, que ce soit les temples bouddhistes, les temples africains ou les temples autres en Afrique ou en Asie, on dépose aussi des objets qu'on a chargés magiquement et qu'on a chargés de prière, essentiellement, pour pouvoir dialoguer avec les dieux, avec les esprits.
Une collection de 25 ans, ça représente combien de pièces?
Moi, j'en ai à peu près 400, mais j'ai aussi énormément, alors là, des milliers de photographies, puisque je n'ai pas pu obtenir acquérir tout ce que je souhaitais avoir, essentiellement ce que l'on trouve dans les musées et dans les galeries, et puis même
et maintenant... Les églises, les temples, tout ça, vous ne pouvez pas...
Effectivement. Ouais. Et vous allez au musée du Quai Branly à Paris, vous verrez des objets absolument somptueux, magnifiques, que j'ai photographié, par exemple, ainsi que dans toutes les galeries du monde. J'étais récemment à Berlin, il y a des magnifiques objets. Bon, on fait des photographies. Et puis j'ai reproduit dans le livre un certain nombre de ces photographies aussi. Mais la plupart des objets que j'ai, je les ai fait photographier par un artiste photographe montpelliérain qui s'appelle Éric Blanc, pour lequel j'ai énormément d'admiration et qui s'est chargé non seulement des photos du livre, mais aussi de la mise en page du livre et qui m'a beaucoup aidé à réaliser ce livre et je l'en remercie.
Toutes les photos du livre sont de lui.
La plupart des photos du livre sont de lui, sauf quand je marque que c'est de moi, mais les photos artistiques sont de lui, oui.
Et vous avez partagé avec lui justement ce sujet, la beauté du sujet, parce que bon, la fécondité, c'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que là, bon, ils n'ont pas le bonheur de voir le livre, mais chaque photo, chaque objet, qui est à chaque fois sur un support différent, d'ailleurs ça peut être une sculpture, ça peut être un frontispice, je ne sais pas comment
frontispice, oui.
Voilà,
oui.
D'une église, ça oui. peut être
un tableau
sur bois, là, sur joie, sur oui. à Nicosie, chaque support est différent. Cet amour de l'objet, vous lui avez communiqué aussi, parce qu'on le retrouve dans les photos. Les photos, elles sont pas, c'est pas innocent de photographier.
Mais forcément, hein, l'artiste photographe, lui, il ajoute sa patte avec l'angle, avec l'éclairage, avec l'amour. On sent s'il aime l'objet ou non rapidement sur la photo. Quand une photo qui est très réussie sur un beau fond avec des ombres et avec des lumières, etc. Ça, c'est on voit le travail de l'artiste, le travail du photographe. Hein. Les professionnels le repèrent tout de suite.
C'est un livre d'amour. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai lu et quand je l'ai vu la première fois. C'est un livre d'amour.
Oui, ben, je me prétends quand même féministe. J'ai eu une éducation, comme tout le monde, un peu machiste au départ. Et puis, quand même, j'ai pas mal évolué grâce à ma femme, à mes filles, etc.
Vous êtes la génération qui a bien...
Oui, je me prétends féministe vis-à-vis de cette collection quand même, puisque c'est un hommage élémentaire et essentiel à toutes les problèmes de la fécondité que je ne connais pas malheureusement moi-même, mais pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé toute ma vie ainsi que ma vie artistique sur les problèmes de la fécondité féminine à travers les âges.
Vous l'avez structuré en trois grandes parties. Il y a l'attente. Il y a l'espoir d'abord d'avoir un enfant, l'attente et le fait de mettre au monde qui est très anxiogène. Enfin, je pense qu'il y a très peu de femmes qui, peut-être un peu moins maintenant avec la péridurale et autres supports qui nous aident à ce que ça se passe bien, mais c'est une période d'appréhension quand même. Il n'y a pas une femme qui n'appréhende pas.
Les trois parties sont des périodes d'appréhension. La stérilité ou la crainte de stérilité pour une femme, c'est une chose assez terrible, surtout dans les sociétés traditionnelles où on attend d'une femme qu'elle mette au monde des enfants et que la famille grandisse, etc.
Ne pas pouvoir mettre d'enfants au monde, c'est une part de féminité en moins pour beaucoup de femmes.
Et oui, je pense que c'est considéré comme cela par beaucoup. Heureusement, maintenant, avec le féminisme, justement, beaucoup de femmes ont réagi et puis se sont dit, c'est ma production, ma productivité, ma capacité intellectuelle ou artistique qui domine. Ce n'est pas absolument indispensable de faire des enfants, mais dans les sociétés traditionnelles, non, ça n'est pas le cas. Mm-hmm. Donc les trois parties essentielles, c'est donc la conception, les images ou les espoirs vis-à-vis de la conception, donc ça s'appelle espérer. La deuxième partie, c'est attendre. Une fois que l'enfant est né, et dans l'utérus, on se fait quand même du souci sur au moindre geste ou au moindre mouvement ou absence de mouvement de l'enfant. Les femmes se font beaucoup de soucis et donc elles vont visiter par exemple le temple des lapins à Kyoto, au Japon, où elles font des offrandes pour que le fœtus qu'elles portent soit en bonne santé, soit joli, etc. C'est pas d'ailleurs innocent que ça s'appelle le temple du lapin, puisque le lapin est un symbole de fécondité. Et puis la troisième partie, c'est la mise au monde, où comme vous l'avez dit, assez anxiogène, et où il y a beaucoup d'images, alors en particulier religieuses. Les religions du monde se sont emparées des images de nativité, de naissance, de grossesse aussi, de femmes enceintes. Et puis alors il y a une quatrième partie dans le livre que nous n'avons pas encore mentionnée, c'est un coup d'œil sur un clin d'œil sur l'art contemporain, puisque j'ai quand même, à l'occasion de toutes ces visites de musées, pu récolter tout ce que les artistes contemporains depuis le 19e, 20e et 21e siècle ont produit vis-à-vis de la fécondité. Alors là, il y a très peu de choses sur la naissance, il y a surtout sur les femmes enceintes et très peu de choses sur la fécondité, sur la conception aussi ou la stérilité, mais beaucoup de femmes enceintes parmi les artistes contemporains, et on peut en reparler quand vous voulez.
Nous allons marquer une petite page musicale avec Myriam Makeba. Vous nous expliquerez après ce choix.
Oui.
Et puis nous feuilleterons ensemble le livre. À tout de suite.
Malaika, nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, ningekuwa wa maliwe, ningekuwa wa hatata. Nashindwa na mali sina we, nashindana mali sina we, ningekuwa wa malaika. Pesa zasumbua roho yangu,
notre rencontre avec Vincent Fauveau dans l'émission Aéropage. Vincent, on va peut-être feuilleter un peu le livre ensemble et s'attarder sur certaines images, notamment, il y en a une qui me parle beaucoup, c'est le rapport de la maternité dans le bouddhisme tibétain.
Oui, c'est évident que les religions du monde se sont emparées de la fécondité depuis toujours, puisque c'est presque par définition que les hommes et les femmes se sont tournés vers les dieux pour régler ces problèmes de fécondité. Donc je me suis intéressé à au moins deux, mais un peu plus en réalité, type de religion. C'est dans le bouddhisme tibétain, par exemple, puisque nous le mentionnons, j'ai visité énormément de temples bouddhistes tibétains à l'occasion de mes voyages et de mes missions à l'étranger, puis de voyages personnels, que ce soit en Inde, que ce soit au Tibet, que ce soit au Sikkim, au Bhoutan, au Népal, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait dans tous les temples un tanka, une peinture murale à l'entrée du temple, à droite de la porte d'entrée, qui est de forme ronde, circulaire, et qui représente la roue de la vie, Bhava Chakra, avec tous les épisodes de la vie. Alors c'est pour c'est destiné à l'éducation des jeunes moines tibétains, sans doute, ou bien des fidèles en tout cas. Et autour de cette roue de la vie, il y a l'image du démon Yama, qui est avec ses griffes, qui montre bien que lui, il peut reprendre la vie, ou il peut donner la vie, ou il peut laisser la vie se dérouler, selon qu'il est courroucé ou non, pour de différentes raisons. Et alors, dans toutes ces images de la Bhava Chakra, on trouve des images d'amour, hein, de jeunes qui font l'amour, enfin, c'est assez pudique, mais on voit bien, de filles enceintes, on voit avec un fond de montagne tibétaine, etc. Et puis d'accouchement, et des scènes d'accouchement de toute beauté, quoique très crue, hein, dans lesquelles on voit par exemple la position typique des femmes tibétaines quand elles accouchent, c'est-à-dire sur le ventre, avec la plupart du temps une sage-femme derrière qui ne fait pas grand-chose, qui se contente de regarder ce qui se passe et de vérifier que tout se passe bien. Et donc c'est à la fois très touchant, très naïf, mais aussi très instructif de voir toutes les scènes de la vie reproductive des femmes tibétaines au cours de leur vie, dans ces images extraordinaires des temples tibétains.
On peut revenir en Afrique aussi d'ailleurs, puisque nous venons d'écouter Myriam Makeba. Pourquoi ce choix d'ailleurs?
Malaïka, ça me donne presque des larmes aux yeux quand j'évoque ce nom et cette chanson, parce que avec mon épouse, nous avions de grandes difficultés à concevoir notre deuxième enfant, et nous étions justement dans un pays qui parle swahili, Mayotte, et pendant que nous nous évertuions à concevoir notre deuxième enfant, nous écoutions bien sûr en swahili Myriam Makeba, et ainsi que d'autres chansons. Et au bout de 5 ans, ça a fini par marcher. Donc nous avons tout naturellement appelé notre fille Malaika, ce qui signifie les anges ou angélique en swahili. Et puis l'affaire se complique un peu plus, parce que lorsque Malaika est devenue grande et en âge d'avoir des enfants, elle a eu aussi de grandes difficultés. Elle a été obligée d'avoir recours à la FIV, et j'ai réservé pour elle de nombreuses poupées de fécondité ainsi que fétiches que je lui ai ramenées de mes voyages. Et chaque fois, bon, elle mettait ça dans un coin chez elle ou bien sur sa table de nuit quelquefois, puis ça a fini par marcher. Et donc voilà comment l'Afrique, le swahili et Myriam Makeba ont contribué à notre vie familiale, et nous avons maintenant un petit-fils. Bon, on ne l'a pas appelé Ange quand même, mais c'est très intéressant.
Elle est superbe, cette série de sculptures africaines. Ça date de quelle époque, ça?
Alors les sculptures africaines sont jamais très anciennes, en tout cas celles en bois, parce que le bois se putréfie et ne se garde pas très très longtemps. Ça doit dater du début du 19e, ou en tout cas du 19e, début du 20e siècle. Et la plupart, ou l'essentiel des statuettes représentant soit un accouchement, soit une poupée de fécondité, sont taillées dans une seule pièce de bois. Et c'est ça qui fait d'ailleurs leur beauté, leur esthétique et leur valeur artistique, dans une seule pièce de bois, avec la représentation des faciès inquiets de la part de...
Elles sont très explicites, le visage de la femme dans la douleur, il est vraiment très, très fort.
Quoi. Exactement, exactement. Ainsi que
on
son
la voit
mari
presque crier.
Par derrière, ouais. Là. Et puis la sage-femme qui est anxieuse, on voit bien qu'elle est occupée, et qu'elle est, tant que c'est pas fini, tant que l'accouchement n'est pas fini, la sage-femme est toujours un petit peu inquiète.
Et dans le monde occidental, dans la Bible, dans la représentation de la Vierge, on parlait hors antenne de la Visitation, c'est...
Ah oui, d'une part la mythologie, alors on peut parler du monde occidental, depuis les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et ainsi de suite, toute la mythologie a été extrêmement féconde en fécondité, toutes les dieux et les déesses ont passé leur temps à avoir des enfants, Zeus se déguiser pour faire des enfants aux nymphes, etc. Enfin, et là, tout ça a été représenté essentiellement dans les peintures de la Renaissance italienne ou bien française et ou bien flamande. Mais après, il y a eu toute la partie biblique qui a été représentée énormément dans l'art occidental, que ce soit l'Ancien Testament, avec toutes les grandes affaires bibliques, Sarah, Abraham, etc., mais aussi le Nouveau Testament, avec bien sûr cette extraordinaire conception virginale de la Vierge Marie qui a soulevé des points d'interrogation et des conciles, etc., pour en discuter, pour connaître la réalité, etc. Et donc les artistes, essentiellement les peintres et les sculpteurs de toute la depuis l'époque byzantine jusqu'à l'époque Renaissance et même après, se sont lancés dans des images, des peintures, des tableaux, des sculptures concernant les épisodes bibliques. Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la Visitation. Chacun connaît la visite de la Vierge de Marie qui était enceinte du futur Jésus à sa cousine Élisabeth, qui elle-même était enceinte du futur Jean-Baptiste. Et lorsqu'elle se rencontre pour la première fois dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth se prosterne devant sa cousine et devine qu'il se passe quelque chose parce qu'en son sein a tressailli le fœtus qu'elle portait, qui est le futur Jean-Baptiste, lequel est représenté dans beaucoup d'images justement du livre, en train de prier, de se prosterner devant le petit fœtus de Jésus qu'il perçoit dans le ventre de Marie. Donc là, on a vraiment des images inoubliables. Et puis après, il y a toutes les nativité, bien que j'ai limité l'intérêt et l'éventail des images de mon livre j'enlève la maternité, c'est-à-dire l'enfant au sein et l'enfant tenu dans les bras, mais la nativité c'est spécial parce que justement il y a eu une très grosse production et on voit des images extraordinaires, Giotto etc. avec des images de nativité, et non pas seulement la nativité du petit Jésus mais aussi la naissance de Marie. Sa mère s'appelait Sainte Anne, et puis la naissance de Jean-Baptiste, dont la mère s'appelait Élisabeth. Donc on trouve énormément de scènes de naissance avec tout ce qui était autour. Pour la naissance du petit Jésus, c'était l'adoration des mages, l'adoration des bergers, etc. Et puis on retrouve dans les églises d'Europe essentiellement, mais pas que, aussi au Brésil et dans d'autres endroits du monde, en Espagne, en Italie, des images de la Vierge enceinte. Et ça, ce n'est pas très très fréquent, mais quand même j'en ai à peu près 200 ou 300 images de la Vierge enceinte. C'est évidemment très typique, les femmes viennent se prier, se prosterner, faire des offrandes devant les statues de la Vierge enceinte lorsque justement elles souhaitent avoir et ne peuvent pas avoir un enfant. Donc ça s'appelle des Vierges de l'Espérance ou des Vierges de l'Avent. C'est toutes ces Vierges enceintes, c'est très amusant parce qu'elles ont des formes et des attitudes tout à fait différentes, mais tellement typiques de la femme enceinte.
Plus intimement, vous me racontiez ce qui vous avait aussi poussé dans ce chemin par ce que vous avez vécu au Yémen notamment.
Oui, ma carrière a commencé lorsque j'étais médecin coopérant et on m'a confié toute les soins et toute la santé d'un district de 30 000 habitants au Yémen, à l'époque où le Yémen était, grâce à Dieu, en paix. Et avec mon épouse, nous avons été les médecins de district, d'un grand district. Et puis, bien sûr, il fallait faire aussi les accouchements. Et un soir, je reçois la visite d'un cheikh, un monsieur très important, un chef local, avec sa très jeune épouse, qui était en plein travail, quoi. Alors je souhaitais l'examiner. Il m'a dit non, chez nous on n'examine pas les femmes, fais ce que tu as à faire, passe par-dessous la robe, etc. Et donc j'ai pas compris ce qui se passait, et j'ai senti que ça n'allait pas du tout, et ça fait longtemps qu'elle poussait, etc. Mais l'enfant ne sortait pas, et je pouvais pas même mettre la main pour voir ce qui se passait. J'étais très embarrassé, et je lui ai proposé d'expédier la femme dans ma propre voiture, en ambulance, donc, vers la ville voisine. Il était furieux, il m'a dit « Non, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. » Et bon, je l'ai expédié, puis le lendemain, j'ai pris des nouvelles, elle était décédée en route. Alors ça a été un énorme choc pour moi, et j'ai compris l'histoire. Elle avait été infibulée, comme la plupart des femmes de ce pays et de cette culture, donc elle avait les lèvres, les petites lèvres et les grandes lèvres complètement cousues. Il aurait fallu que je prenne un grand couteau et que je taille, que je coupe pour pouvoir lui permettre d'accoucher, ce que je n'avais pas, ma culture occidentale de médecin et ma formation ne m'avait pas préparé à ça. Et j'en ai conçu donc cette grande, à la fois honte et décision de m'occuper des femmes enceintes, plus jamais ça. Et grâce à Dieu, je n'ai pas eu d'autres décès maternels, mais ça a été absolument décisif pour ma vie professionnelle.
Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre, donc chargé d'émotions, chargé d'amour pour les femmes, pour les enfants, pour le fait d'être enceinte, de l'attendre, de l'espérer. Ça couvre vraiment toutes les visions de la maternité. C'est en auto-édition ?
Oui, j'ai préféré travailler moi-même sur le livre avec mon ami le photographe Éric Blanc, parce que normalement un éditeur, lui, il a besoin d'un manuscrit. Or, j'avais pas de manuscrit puisqu'il s'agit d'un livre d'art, il s'agit d'un livre de photos. Donc une fois que j'avais fait toutes mes photos et ma mise en page pour que ça devienne un manuscrit entre guillemets correct, eh bien le bouquin était fait, il n'y avait plus qu'à l'envoyer chez l'imprimeur, c'est ce que nous avons fait. Mais je ne désespère pas qu'un éditeur peut-être le trouve bien ce bouquin et puis me propose
de le diffuser
plus largement, parce que dans tout le monde anglophone et francophone, puisque le bouquin est dans les deux langues, il est absolument traduit en anglais, donc il est capable de courir le monde entier.
Parce que les textes sont quand même très explicatifs, hein. c'est pas juste une phrase, on explique vraiment sur chaque sujet, sur chaque photo, il y a vraiment du texte, donc en français et en anglais.
Oui, c'est ça. Et il y a les légendes des photos qui sont assez explicites aussi, et puis beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires autour de ces photos.
Pour se le procurer chez The Ramps, à la Cavale, et puis en vous écrivant directement à vincentfauveau@gmail.com.
Oui.
Sachant que vous pouvez aussi participer à des conférences, organiser des conférences sur le sujet.
Oui, absolument. Je peux faire des conférences soit dans des centres culturels, soit dans des médiathèques, ou bien dans
des maternités
ou des écoles de santé publique, des écoles de sages-femmes, à la faculté de médecine de Montpellier, j'en ai fait, etc. Oui, je fais beaucoup de conférences. Parce que le sujet est vraiment porteur et tellement bien servi par l'iconographie que ça fait des très belles conférences.
C'est un livre que vous pouvez offrir à Noël.
Ah oui.
Parce que c'est vraiment un livre d'art et que la période de la nativité s'y prête quand même. Hein?
Absolument.
Je vous remercie beaucoup Vincent pour cette rencontre et puis à très bientôt pour un autre aéropage.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir, bonne fête.